Chapitre 90. Ravine du Bois Malaire, bouillante, 18h01. Valérie a ouvert la porte et les fenêtres, poussé les meubles, étendu les draps, les nappes et les rideaux. Les derniers rayons de soleil pénètrent dans la case et transforment la poussière en galaxie d'étoiles. Grand ménage. Il lui reste peu de temps, à peine 4 heures. 4 heures, alors qu'il n'a pas touché à un balai ou à un chiffon depuis un mois. Il a habité dans la case de la rue du Bois Malaire comme dans un mausolée, sans rien toucher. Un étranger entré par effraction dans un temple sacré. La présence de sa mère, partout. La sienne, nulle part. Le commandant reste quelques secondes à admirer la mer. La plage de Malandure, les kayaks qui reviennent de la réserve Cousteau, puis d'un pierrageur, mettent en marche l'aspirateur. Aspirer les galaxies d'étoiles l'aide à penser. Tout comme rechercher sous les meubles de nouvelles voies lactées ou de simples toiles d'araignées lui permet de réfléchir en toute sérénité. Il a repassé des dizaines de fois les images de l'incendie de l'habitation Wagram, il y a 21 ans, réécouté les cris de la petite Origan. Les autres témoins, Jacob et Janet, Audrey et Ludovic, Shaima et son père ne se sont jamais manifestés. Il a essayé de se souvenir de chacune de ses décisions, de minuter chacune de ses réactions. Aurait-il pu agir autrement? Sauver Marcel et Marie Tépigeon? Non. Tous ceux qu'il a interrogés, gendarmes, médecins, pompiers, l'ont rassuré qu'il ait été sous en ce jour d'astreinte n'a rien changé. Et c'est précisément pour cela que tous l'ont couvert. Parce que Valéric était un bon flic. Que ça ne lui était jamais arrivé, ni avant, ni après. Et que même avec 2 grammes d'alcool dans le sang, il a assuré. Comment aurait-il pu prévoir l'engrenage infernal que ce secret déclencherait? Valérie avale une nouvelle pilule d'étoiles. Petit à petit, la case reprend vie. Il a décidé de chasser les fantômes, ou du moins de cohabiter avec eux. Il n'a pas jeté à la poubelle les souvenirs de sa mère, les photos, les papiers, les moulins à café, mais il les range. Et avec le reste, il s'arrange. Il observe avec fierté le bouquet d'oiseaux de paradis posé sur la table et la corbeille de fruits frais à côté de l'évier. Des couleurs contre le gris. Des saveurs contre l'ennui, des odeurs pour effacer le parfum de mort. Une case accueillante, aux teintes exotiques, presque romantiques. Tout l'inverse de la tanière d'un vieux raccoon solitaire. Ce soir, il reçoit. Ses 2 enfants, Rose et Gabin, atterrissent à Pointe-à-Pitre par le vol de 22 heures. Ils vont enfin découvrir la Guadeloupe. Depuis leur enfance en Normandie, ils se sont tellement questionnés sur cette île, sur leurs racines, sans jamais rien oser demander. En se contentant du coin de voile que leur père avait levé. Il avait quitté la Guadeloupe avant leur naissance. Sa famille et lui étaient fâchés. Peut-être Valérie leur parlera-t-il maintenant. Rose et Gabin ont 18 et 20 ans. Pourquoi mentir aux enfants quand ils sont grands? Valérie s'attaque à une pile de livres. Des manuels de cuisine, des recueils de poésie créole, des catalogues de cartes postales anciennes. Les dépoussiérer d'abord, les ranger dans la chambre ensuite. Il saisit le premier, un épais album de photos et une pluie de papier tombe à ses pieds. Des articles de journaux. Valéric s'accroupit, surpris. Les articles tiennent parfois sur une page entière, mais se réduisent le plus souvent à des entrefilets. Il y en a 30, tous ont été minutieusement découpés. Le policier en saisit un, manque de tomber à la renverse. Les informations d'Iepoise, 20 mai 2008. Coup de filet sur le port de commerce. La brigade judiciaire de Dieppe, dirigée par le commandant Valéric Cancel, a démantelé un important trafic de stupéfiants, impliquant aussi bien des transporteurs que des employés et... Valéric ramasse tous les articles qui lui tombent sous la main, les survole. Il en connaît déjà le contenu. L'arrestation d'un forcené à Arc-la-Bataille, une série de cambriolages à Luneray, le déminage d'un obus de la Seconde Guerre mondiale à Criel-sur-Mer, une série de faits divers, d'affaires dont il a eu la responsabilité. Son nom est apparu souvent dans la presse normande en 20 ans. À partir d'une simple recherche sur Internet, il n'était pas difficile de les retrouver, de les imprimer, mais... Mais sa mère n'avait pas d'ordinateur. Elle ignorait tout d'Internet. Elle n'a jamais quitté son île, n'a jamais lu les journaux. Par quel miracle pouvait-elle s'intéresser aux informations d'Iepoise? Ou aux courriers cauchois? Par quel tour de magie a-t-elle pu récupérer ses articles? Et pourquoi collectionner tous ceux qui parlaient de lui? Il continue machinalement de les ramasser. « Pascal t'aimait », répond une voix dans son dos. Une voix qui semble avoir lu dans ses pensées. « Pascal était fier de toi », insiste la voix. « Madou. » Madou qui entre comme si la porte n'avait été laissée ouverte que pour elle. Madou qui jette un regard intrigué sur le vase fleuri et les fruits. J'appréciais beaucoup ta mère. Elle était seule, elle s'ennuyait, elle buvait. Quand je le pouvais, je l'aidais. Tout le monde s'entraide ici, tu le sais. Elle m'a raconté son histoire un soir. Son mari en prison. Son fils unique parti en métropole. Il lui était impossible de pardonner sa trahison, même si, dans le secret de son cœur, elle avait toujours su que son fils avait raison, qu'il l'avait sauvé, qu'il l'avait débarrassé de l'homme qui aurait fini par la tuer. J'étais journaliste. Elle m'a d'abord demandé de chercher ton adresse, de chercher où tu habitais, juste pour savoir. Quand je lui ai montré le premier article, trois lignes qui parlaient d'un de tes exploits, avoir arrêté un conducteur en excès de vitesse, je crois, j'ai compris à quel point elle t'admirait. J'ai créé une alerte à ton nom sur Google, et pendant des années, je lui ai imprimé les articles qui parlaient de toi. Tous les mercredis, au marché, elle me demandait s'il y en avait un nouveau. Tu étais son unique univers, son héros, sa lumière. Valérie continue de ramasser les entrefilets, tête baissée pour que Madou ne voie pas ses larmes couler. Pourquoi est-il si difficile d'afficher sa fierté? Madou a l'élégance de détourner les yeux, de se pencher sur la corbeille de fruits, de voler une cerise pays. Tu comprends pourquoi j'ai misé sur toi pendant cette enquête? Je savais que tu étais un bon flic. Le commandant lui offre un regard brillant de pluie. Aux yeux de ma mère, tout au moins. Il reste un moment silencieux, à méditer sur l'objectivité d'une mère, sur les talents de son fils unique, tout comme celle du courrier cauchois, sur les exploits du policier le plus gradé du canton. Madou s'est approchée pour croquer une seconde cerise. Elle observe avec méfiance le bouquet d'oiseaux de paradis. « Je te dérange? Tu attends quelqu'un ?»« Ouais. » Le regard de Madou s'assombrit. Tout éclat d'améthyste éteint. Elle a trop le sens de l'autodérision pour chercher à dissimuler sa désillusion. « Dommage. J'ai cru que les fleurs étaient pour moi. » Valérie hésite une seconde, touchée par la sincérité de sa déception. Mes deux gosses. Je dois aller les chercher à l'aéroport. Les diamants mauves des yeux de la journaliste se rallument aussitôt.
Dans combien de temps?
3h20.
Parfait. Laisse tout ouvert. Viens.
Le soleil se couche au large de la plage de Malandur. Dans un lit d'or, sur la ligne d'horizon, les alizés caressent les deux mamelons sombres des îlets pigeons. Valérie et Madou marchent côte à côte. Ils s'arrêtent aux premières vagues. Leurs deux ombres disparaissent, avalées par le sable noir. Le soleil fuyant gomme peu à peu le reste, comme si les deux silhouettes étaient dessinées au crayon. Il efface leurs pieds et leurs jambes d'abord, puis leurs mains qui pendent bêtement, stupides de ne pas oser se toucher. Leurs hanches, leur taille, leur poitrine. Le ciel vire du pourpre noir. Les alizés soufflent sur une dernière braise. Un dernier éclat de soleil entre ciel et mer. Leurs deux visages se rapprochent. La nuit leur coupe déjà le cou. Valéric trouve la force de plaisanter. La dernière phrase du condamné.
On va pas s'embrasser ici. Dans ce décor de carte postale, comme dans le pire des clichés.
Tais-toi.
Leurs lèvres se joignent alors que le soleil disparaît. La nuit leur accorde une ultime seconde, le temps que leurs deux profils se fondent, avant de recouvrir la fin de l'histoire d'un pudique voile d'obscurité.